80 ans sur Israël pour l'assassinat du général Mousavi ne sera rien d'autre que sa disparition. Au moins 20 Palestiniens tués lors d'une frappe israélienne à Rafah dans la bande de Gaza, et la résistance islamique irakienne frappe les positions des États-Unis dans la région. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que la vengeance de l'Iran pour l'assassinat par le régime israélien d'un haut conseiller militaire iranien en Syrie ne serait rien d'autre que l'élimination totale d'Israël. Le général de division Hossein Salami a fait ses remarques jeudi lors d'un cortège funèbre pour le général de brigade Sayed Razi Mousavi, commandant du CGRI, qui est tombé en martyr lors d'une frappe aérienne israélienne sur un quartier de Damas lundi. Le martyr de Sayed Razi Mousavi est le résultat de l'incapacité du régime sioniste, a-t-il déclaré. Nous ne ferons jamais preuve de patience face au martyr de nos compatriotes. Notre vengeance pour l'assassinat de Sayed Razi ne sera rien d'autre que l'élimination du régime sioniste. Fin de citation. Le général Salami a décrit Mousavi comme l'un des commandants les plus expérimentés et les plus efficaces du CGRI. Le commandant assassiné était un camarade du légendaire commandant antiterroriste iranien, le général Qassem Soleimani, a-t-il déclaré, ajoutant que le général Mousavi n'avait jamais quitté le champ du djihad au cours des 45 dernières années. Le général Soleimani a été assassiné, lui, par les États-Unis en Irak en janvier 2020. Il était très vénéré en raison de son rôle clé dans la lutte contre le groupe terroriste Daesh créé par les États-Unis et soutenu par Israël. Salami a déclaré que l'opération Tempête d'Al-Aqsa, lancée par le mouvement de résistance palestinien Hamas, basé à Gaza contre Israël le 7 octobre, a été entièrement conçue et menée par les Palestiniens eux-mêmes. Il a ajouté, dixit, l'opération était une réaction à 75 ans d'occupation israélienne et de crimes et de meurtres de jeunes Palestiniens, ainsi qu'à la profanation par le régime de la mosquée Al-Aqsa et aux raids nocturnes en Cisjordanie. Les Iraniens ont pris part ce jeudi dans une cérémonie funéraire massive pour un haut conseiller militaire du corps des gardiens de la révolution islamique, Sayed Razi Mousavi, assassiné par Israël lundi dernier en Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que le Hamas avait informé l'Iran qu'il disposait de capacités suffisantes pour poursuivre la confrontation avec Israël dans la bande de Gaza assiégée pendant des mois. Amir Abdollahian a déclaré jeudi dans la ville sainte d'Orcombe que plus de 80 jours se sont écoulés depuis la guerre à Gaza, mais le régime sioniste n'a rien obtenu. Selon les commandants du Hamas, seulement 14% des capacités de résistance ont été endommagées jusqu'à présent, a affirmé le ministre. Amir Abdollahian a ajouté que la longueur des tunnels du Hamas est aujourd'hui supérieure à la superficie de Gaza, indiquant que les ateliers de fabrication de drones de la résistance palestinienne n'ont pas été fermés, même une heure depuis l'opération de Tempête d'Al-Aqsa le 7 octobre. Il a noté que plusieurs officiers haut gradés des forces de sécurité et militaires du régime sioniste ont été retenus captifs par le Hamas au premier jour de l'opération Tempête d'Al-Aqsa, après quoi plus de 70% de la population de Gaza ont pris les armes et sont venus sur le champ de bataille pour défendre leur pays. Le ministre ensuite a fait allusion à la popularité croissante de la résistance palestinienne, affirmant que c'est le Hamas qui a le dessus à Gaza et à la guerre. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que le régime sioniste, à son tour, avait changé ses objectifs et sa stratégie à plusieurs reprises lors de la guerre à Gaza, mais n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs. Les frappes aveugles d'Israël ont tué des dizaines de civils supplémentaires à travers Gaza, les camps de réfugiés étant les principales cibles de la guerre génocidaire du régime. Plus de 20 personnes ont été tuées jeudi après une attaque aérienne contre un immeuble résidentiel de la ville de Rafah dans la bande de Gaza. Les gens et les ambulanciers ont retrouvé vivants un enfant sous les décombres. Les frappes aériennes israéliennes ont également touché d'autres zones résidentielles du territoire palestinien. Pas moins de 10 personnes ont été tuées dans le bombardement d'une maison à Khan Younes. 8 autres ont perdu la vie lors d'une attaque contre le camp de réfugiés de Maghazi. Les responsables de la bande de Gaza ont confirmé jeudi que les frappes israéliennes avaient tué 210 Palestiniens. Au moins 21 320 personnes, dont en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza assiégée depuis le début des attaques militaires israéliennes, selon le ministère palestinien de la Santé, dans l'enclave palestinienne. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a averti qu'il n'y avait pas assez d'aide dans la bande de Gaza assiégée, laissant 40% de sa population en danger de famine en raison des restrictions imposées par le régime israélien à l'entrée des camions d'aide humanitaire indispensables dans l'enclave. En outre, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU s'est déclaré choqué par le taux croissant de violence des colons israéliens à l'égard des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Les combattants de la résistance irakienne islamique d'Irak ont pris pour cible une nouvelle fois jeudi le champ gazier Conoco en Syrie. Plus tôt jeudi, la résistance irakienne avait annoncé dans un communiqué avoir visé un centre d'espionnage appartenant au régime sioniste près de l'aéroport international d'Erbil au Kurdistan irakien en représailles au massacre des civils par le régime occupant. Au cours de ces dernières semaines, des bases américaines en Syrie et en Irak ont été attaquées à plusieurs reprises par des drones, des roquettes et des missiles de la résistance islamique irakienne. La résistance islamique en Irak avait auparavant annoncé qu'elle intensifierait ses attaques contre les bases américaines dans la région en soutien au peuple palestinien en raison de la complicité de Washington dans le massacre des Palestiniens. Plus tôt dans la journée jeudi, la résistance irakienne a annoncé dans un autre communiqué avoir mené une opération contre une cible vitale et clé dans le sud de la colonie de peuplement israélienne Eliade dans le Golan occupé. Et pour fermer le journal, sachez que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à accélérer les préparatifs de guerre de son pays, y compris son programme d'armement nucléaire, en raison de la grave situation politique et militaire causée, selon lui, par les manœuvres de confrontation des États-Unis et de leurs alliés, ont rapporté jeudi 28 décembre les médias d'État nord-coréens. Au cours de la réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs de Corée, grand messe annuelle du Parti unique au pouvoir en Corée du Nord, Kim Jong-un a ordonné à l'armée populaire nord-coréenne, à l'industrie des munitions, au secteur des armes nucléaires et de la défense civile, d'accélérer les préparatifs de guerre, a rapporté l'agence officielle KCNA. La Corée du Nord a procédé cette année à un nombre record d'essais de missiles balistiques, en violation, selon certaines sources, de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. En 2023, elle a gravé dans sa constitution son statut de puissance nucléaire, a lancé avec succès un satellite militaire espion, c'est-à-dire de reconnaissance, et a testé également avec succès le Hwasong-18, le missile balistique international ICBM le plus puissant de son arsenal, capable d'atteindre même les États-Unis. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique qui porte sur les moyens par lesquels les pays africains pourront protéger leur souveraineté économique face à un système financier international façonné par l'Occident. Restez avec nous. L'Afrique doit secouer le joug du système financier international. Tel est le thème de notre commentaire politique. Les pays africains doivent protéger leur souveraineté économique face à un système financier international parfois corseté par l'Occident, a expliqué à Sputnik Afrique le militant panafricain Abdoulaye Nabaloum. Sortir de l'aliénation occidentale, l'Afrique doit se méfier des discours portés par les institutions financières internationales comme le FMI ou la Banque mondiale qui aliènent sa souveraineté économique, a déclaré Sputnik Abdoulaye Nabaloum, fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples. Les mécanismes de Bretton Woods ont permis de maintenir l'Afrique dans une situation difficile, une situation de précarité qui alimente aujourd'hui toutes les tensions. Nous avons compris qu'il y avait deux langages, le langage de la vérité sur nos ressources naturelles et le langage du mensonge qui veut nous inculquer que nous sommes des États pauvres et que nous devons être sous perfusion du système financier international, explique-t-il ainsi. Sur le dossier ukrainien, certains acteurs occidentaux ont d'ailleurs voulu manipuler les outils financiers internationaux pour sanctionner la Russie, ce qui a renforcé la méfiance à leur égard, affirme encore Abdoulaye Nabaloum. L'incapacité des institutions financières internationales à coller aux réalités africaines n'est cependant pas une fatalité, car des alternatives ont peu à peu vu le jour. Les BRICS portent notamment une vision plus multipolaire qui pourrait séduire le Sud global, note le militant panafricain. C'est une très bonne chose d'avoir pensé à ce multipolarisme. Il faudra que les BRICS fassent le diagnostic de ce qui n'a pas marché avec les institutions de Bretton Woods pour favoriser d'abord le développement, déclare-t-il ainsi. La possible mise en place d'une monnaie commune aux BRICS pourrait notamment briser la domination du dollar. Le travail du groupe pour trouver une alternative au système de paiement bancaire SWIFT doit également être suivi de près, souligne Abdoulaye Nabaloum. Cette évolution vers un monde multipolaire pourrait favoriser drastiquement la situation économique financière dans des pays africains, conclut-il.